Laissez les bruits du monde s'éloigner. Sur les ondes, une porte s'ouvre. Une brise légère effleure les pensées. Un souffle d'été traverse les silences. Et chaque note devient un moment d'évasion. Summer Waves.
20h04 à l'écoute des programmes d'Algéchaîne 3. Bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver sur nos ondes pour ce nouveau Summer Waves. Où que vous soyez, chez vous, bien installé, au frais, que vous soyez sur la route, en voiture, à la plage, oui, pourquoi pas, ou encore au travail. Merci de vous joindre à nous. On vous invite à partager une petite heure de bonne humeur. Et aujourd'hui, l'émission prend des couleurs et du souffle grâce à deux femmes qui conjuguent l'art au féminin, au pluriel et en profondeur. D'un côté, Mounjia Abdeltaif, architecte, artiste plasticienne, auteure, enseignante qui explore les liens entre l'espace, la mémoire et la création. Son livre Dar Abdeltaif rend hommage à un lieu emblématique du patrimoine algérien, véritable creuset d'inspiration artistique. À ses côtés, sa fille, Majda Ben Chaben, artiste peintre, psychologue clinicienne et intervenante en atelier créatif, une femme pour qui l'art est aussi soin, écoute, exploration de soi. Voilà pour votre programme aujourd'hui, l'émission réalisée comme tous les soirs par Hind Jenhia. À la technique, c'est Krimou Bugbagi qui nous accompagne ce soir. Merci mille fois pour votre fidélité. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous dans votre émission quotidienne Summer Waves. Et aujourd'hui, je suis en très très bonne compagnie et je suis ravie d'avoir réussi à les réunir toutes les deux dans les studios d'Algéchaîne 3, Mounjia Abdeltaif et Majda Ben Chaben. Bienvenue à vous deux. Je suis vraiment ravie de vous avoir. On se dit tu, si ça vous dérange pas.
Ça me dérange pas du tout.
Mounjia.
Et je suis ravie d'être avec toi une fois de plus. Oui. On s'est déjà rencontrés.
Évidemment.
Oui, ça va être, je suis sûre que ça va être très intéressant.
Merci d'être parmi nous, Majda. C'est un plaisir de t'avoir à chaque fois dans les studios d'Algéchaîne 3.
Également, c'est un plaisir de revenir dans ces studios et plus spécialement avec toi. Toujours un plaisir.
Toujours un plaisir pour moi aussi. Alors, je le disais tout à l'heure, deux regards complices et complémentaires sur la création, la créativité, le geste artistique, l'héritage et la transmission. Vous êtes d'accord avec ça? On est dans la complicité et aussi la complémentarité. Mounjia, d'abord.
Je dirais que nous avons parfois des perceptions différentes, mais nous nous rejoignons.
Oui, toujours.
Oui, même si on n'en parle pas toujours, mais au fond, on est d'accord sur les fondements.
je
suis pour la paix.
Alors, je suis pas d'accord. Alors, j'ai pas trop le choix puisque les fondements étaient bien posés
bien
par elle.
Ouais. Bah, elle est architecte, elle sait ce que c'est hein, de poser une base solide.
Exactement. Donc, J'ai le soin de, par la suite, de reprendre aussi l'héritage et certains concepts. Mais c'est vrai que nos formations différentes font qu'on a des points de vue différents et c'est enrichissant.
Mais tu es la seule artiste, non, je pense que ta sœur aussi, ou
oui.
La,
non,
voilà,
oui, bien sûr.
À la maison, ça parle beaucoup d'art.
Oui.
Tout le temps.
Beaucoup d'art, beaucoup d'architecture, beaucoup d'histoire. Et bon, la psychologie, je suis la seule. À...
Ah. Non, de temps en temps, c'est toi qui prends le...
Nous avons un mathématicien qui est au fond, un artiste.
Oui.
Mais qui s'exprime pas suffisamment. Mais j'aurais à le dire, les mathématiques... Et l'architecture et les arts, c'est une seule et même chose.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. L'architecture est un art à part entière. Alors, Mounjia, tu vas présenter ce mercredi une conférence sur Dar Abd al-Latif, architecture et histoire. C'est un rendez-vous qui représente beaucoup pour toi, mais quoi au juste? C'est vrai qu'on... Tu as beaucoup parlé de Dar Abd al-Latif. Il y a eu le livre sorti avec El Bayazine il y a quelques années. C'est un lieu auquel tu tiens tout spécialement, mais cette conférence, elle représente quoi finalement?
Alors, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'ai toujours le sentiment que concernant notre patrimoine, qui est riche et varié, on n'en parle jamais trop. C'est que notre société a toujours besoin d'en apprendre plus et plus. Et personnellement, quand je me suis lancée dans la recherche, j'ai ressenti un phénomène, c'est que plus j'avance et plus je prends conscience que je ne sais rien. Donc, ce sentiment-là, ça a été un moteur. Mmh. Et en même temps, je me lance des défis. Et d'ailleurs, je disais à ma fille tout à l'heure, j'étais censée, après une recherche, une thèse de doctorat de 7 ans, j'étais censée soutenir une thèse de doctorat. J'ai dit, je ne peux pas soutenir parce que je ne peux pas faire un point final. Je ne peux pas, concernant le patrimoine, et en particulier Alger, le Jazeera, je ne peux pas dire point, ça y est, j'ai terminé.
On a fait le tour.
Non, c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, a germé l'idée de sortir le livre. Et le livre m'a permis, pendant un temps, de encore remettre en question les concepts, etc. Et par la suite, j'ai sorti le deuxième, donc le recueil de poésie. Et pendant le recueil de poésie, j'ai encore, pendant quelques mois de fortes émotions, parce que la poésie, c'est l'origine, c'est des émotions, ça m'a permis de dire un jour, justement dans les médias, qu'il ne faut pas refouler ces émotions. Il faut les laisser sortir et les dire, parce que l'architecture, c'est que de l'émotion. Donc, c'est pas incompatible avec la science, avec le savoir.
Pas du tout, oui.
Je le constate de plus en plus, chaque fois que je vais à Dar Abd al-Latif, pour moi, c'est comme une première fois. C'est-à-dire que je découvre des choses je m'enrichis chaque fois. Mm-hmm. Et donc, j'arrêterai jamais. Peut-être que ça sera pas un jour Dar Abd al-Latif, mais ça sera une dar quelque part.
Quelque part. Mais il y en a tellement des Dar Abd al-Latif.
Exactement.
En Algérie, pas qu'à Alger d'ailleurs. Hein.
Et j'ai envie d'explorer, j'ai envie d'aller fouiller encore plus et essayer d'en apprendre plus. Donc,
mais outre le fait que Dar Abd al-Latif soit ce joyau architectural que tout le monde connaît, qu'on veut préserver, qui nous inspire, parce que ça a été longtemps une résidence d'art, pourquoi ce lieu te touche autant?
Je crois comprendre ce que tu veux me faire dire, c'est-à-dire par rapport à la famille, c'est ça?
On en a déjà parlé même dans l'émission, Abd al-Latif, Mounjia Abd al-Latif. Non, mais c'est tout spécial pour toi ce lieu, c'est pas parce que ta famille, il y a de cela beaucoup d'années passées, et y ont habité, je pense que c'est au-delà de tout ça.
Non, effectivement, ce sont des phénomènes, encore une fois, liés aux émotions que je ne maîtrise pas.
Oui.
Je suis parfois même déstabilisée parce que je me dis cette demeure, elle a plus de 3 siècles, Et elle a traversé des événements incroyables, ouais, comme deux grands séismes.
Tout à fait.
Vous savez, le 18e siècle, ça a été une série de séismes. Mm-hmm. Il y en a eu, ils sont très nombreux. Mais celui de 1716 et celui de 1756, ouais, ils ont été dévastateurs. Donc la ville est tombée. Mm-hmm. Mais Tara Abdel-Tarif était debout.
Ouais.
Elle a... C'est extraordinaire, elle est encore là, la bâtisse. Bon, et bien sûr, les dépendances lors de Maison des Artistes, elles ont été un peu changées, un peu comme les ateliers, etc. Mais elle, elle dure. Mmh. Et alors, je me dis, et dire que cette architecture, elle est le témoin, ouais, d'une civilisation, d'une société donc civilisée,
oui,
et... comme je me passionne beaucoup, je me dis, et dire que un siècle et demi après, on nous a dit non, il y a pas d'Algérie, il y a pas d'Algérien, il y a pas de civilisation. Donc, je suis très passionnée quand quand je réalise tout ça, et je continuerai à livrer certains secrets dès que j'ai l'occasion.
Alors, c'est un lieu que tu connais très bien, toi aussi, Majda,
oui,
Ben Chaben. Tu as autant de d'émotions lorsque tu te rends à Dar Abdel-Latif pour un atelier, pour une exposition, pour une simple rencontre littéraire. C'est un lieu qui te parle à toi aussi, Majda?
Alors, je pense, si je peux me permettre de répondre en partie à la question que tu as posée à ma mère, c'est que en vérité, elle a aussi participé
à la restauration,
à,
oui,
voilà,
en tant qu'architecte.
Elle a quand même vu
le chantier.
Le chantier, oui. Et donc, mmh, ça a été comme un processus où elle l'a vu renaître. Et donc, ça participe aussi à cette émotion et le projet du livre. Et donc, il y a un investissement aussi qui a été fait. Donc, j'imagine que c'est ce qui fait la particularité. Mais demain, si par exemple, il y a une autre dalle du Fars qui se met à être restaurée et où elle peut être activement qui participe activement à sa restauration, oui, ça c'est toujours, de toute façon, c'est toujours un privilège de voir ce patrimoine, cet héritage renaître, et on en a vraiment besoin.
Oui, mais toi, qu'est-ce que tu ressens?
Voilà, c'est la question que MF dit t'a posée.
Eh ben, on est deux maintenant à la déposer.
Alors, j'ai eu le privilège au mois de janvier, le 1er janvier 2025, d'organiser un atelier, ouais, là-bas. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire puisqu'on a jumelé justement nos deux activités. On a fait une journée entière, hein, notre atelier et visite de la DAR, et les participants, ils étaient 15, étaient ravis justement d'avoir ce privilège.
Deux ans,
oui, et de peindre, de créer dans ce contexte-là, ouais, face à la mer. Donc moi, j'ai plus le regard d'artiste,
oui,
avec tout le lieu.
Moi, j'étais son élève, du coup. Eh ben oui.
Le lieu est inspirant et je comprends pourquoi ils l'ont choisi pour être la maison des artistes. Voilà, donc c'est la réponse.
Dar Abdel-Latif, le livre paru aux éditions Al-Bayazin, je le disais tout à l'heure, comment tu l'as écrit, Mounjia? On ne va pas revenir sur le livre, hein, parce que c'est un livre qu'on doit lire absolument. Et c'est ton regard,
c'est
à toi.
C'est l'histoire de l'écriture. Quoi.
Voilà. Ouais. Est-ce que tu l'as écrit comme une architecte, vu que tu as pris part, comme vient de dire Majda, à la restauration? Est-ce que tu l'as écrit comme une artiste plasticienne que tu es, ou comme une conteuse qui raconte une histoire qui touche aussi à sa famille, parce que c'est le cas?
Alors, ce livre, il est né justement de la petite frustration, le fait que je n'ai pas soutenu ma thèse.
Mmh.
Je me suis dit, il faut que je laisse une trace. Et donc, c'était dans la thèse le cas d'étude d'Al Abdel-Latif. Il me fallait un cas d'étude parce que moi, en fait, je m'intéresse à Dar al-Jazair, qui sont toutes les diars de la ville, de la cité. Et là, vu que j'avais la matière, tout était là. Donc, je me souviens très bien, on était en septembre 2014. J'ai mis 2 mois pour le rédiger. Bon, évidemment, c'était un petit pavé. J'avais beaucoup de choses à dire, mais... Mon conseiller, c'est un ami, c'est celui qui l'a restauré, donc c'est Abdelwahab Sekar, que je salue. Il m'a conseillé, il m'a dit, c'est un livre, c'est pas une thèse, et il a coupé. Il a coupé le jargon du thésard, des choses complexes, compliquées et tout. Et finalement, voilà, il a laissé l'essentiel, c'est lui, c'est, je pense qu'il a eu raison. Et il faut dire aussi, je salue mon éditrice, Madame Sediri, qui vraiment était avec moi. C'est une petite aventure. Donc, c'est la première fois que je produis un écrit comme ça. Et elle m'a comprise, elle m'a aidée. Et franchement, j'ai découvert l'édition et j'ai découvert aussi certaines difficultés à faire un ouvrage. Donc ça a été pour moi une expérience magnifique. J'ai écrit en tant qu'architecte. C'est indissociable. Il y a le côté plasticienne, mais je n'ai pas trouvé d'ouvrage, de livre sur Darab.
Oui, je crois que
je n'ai pas trouvé.
J'ai bien raison.
J'ai questionné des parentes qui sont en France. Il n'y avait pas. Oui. Donc je me suis dit, ce que je vais donner sera sûrement utile. Et voilà, c'est comme ça qu'il est né et qu'il est sorti.
L'architecture dit beaucoup sur l'architecture d'une époque donnée. Tu peux répondre à la question aussi, Majda. Elle dit beaucoup, elle nous dit longuement sur un peuple ou sur un mode de vie. Tu penses que c'est...
Tout à fait. Ouais. Ah oui. Oui, l'architecture parle.
Oui.
Mais il faut juste avoir les outils pour l'écouter.
C'est ce que j'allais dire, il faut la comprendre.
Il faut la comprendre, voilà. Donc,
ou l'écouter,
c'était ça mon but, justement, c'est de la comprendre.
Ouais.
Encore une fois, l'humilité, hein, parce que pour comprendre le patrimoine, déjà dans les pays développés, ils ont du mal. Hein. J'ai beaucoup côtoyé les Italiens et eux n'ont pas tout fini, ils continuent avec les restaurations et tout. Donc, on n'arrivera pas. Parce que c'est dur à dire, mais on est incapable de faire quelque chose comme ça aujourd'hui.
Dans le monde, tu veux dire?
Oui, on est incapable de ça. On traverse un déclin civilisationnel.
Mm-hmm.
Il faut être courageux et le dire, parce que les Européens eux-mêmes le disent maintenant. C'est un déclin civilisationnel. On est au bas de la parabole. Donc, on ne peut que saluer ce que nos ancêtres ont fait.
C'est pour ça qu'il faut revenir peut-être au patrimoine pour pouvoir...
Donc il faut apprendre d'eux. Ils nous laissent des traces. Mmh. L'avantage de l'architecture, c'est qu'elle est là.
Mmh.
Et donc elle témoigne de ce niveau très élevé de savoir. Et il faut apprendre d'eux. Et puis, ce que je vais dire mercredi aussi, c'est très important, et je vais faire référence à l'Andalousie, c'est que eux, les Andalous, ils ont créé la modernité. C'est-à-dire qu'à partir de leur patrimoine, maintenant c'est les Espagnols qui ont fait ce travail, ils ont créé la modernité. C'est de ça qu'on a besoin, nous. Parce qu'on ne peut pas figer une architecture ancienne qui a des siècles et continuer à dire toujours la même chose. Mmh. Il faut innover, il faut créer. Elle a une âme, mais maintenant il faut lui donner un avenir.
Et on peut le faire à partir du patrimoine qui est existant chez nous en Algérie.
On peut le faire. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs voyages, Majda et moi, là-bas, en Andalousie. Et on s'est dit, bon sang, ils ont des diars comme nous. Et ils en ont fait des petits bijoux. Elles sont peu nombreuses, hein, parce que vous savez que pendant la Reconquista, il y a eu beaucoup de disparitions, de démolitions. Mais ce qu'ils ont entre les mains, ils le mettent en valeur. Ils le livrent au public, ils le font fonctionner et ils le modernisent. Donc pour nous, c'est un très bon exemple. Moi, si on me demandait mon avis, je fais des équipes d'architectes, je les envoie faire des stages là-bas. Ils apprennent en Andalousie et ils reviennent avec des façons de faire.
Ouais.
Des
clés
des clés. Et puis l'installation d'une méthodologie. Mmh. Pourquoi pas? Donc on peut apprendre des Espagnols et des Italiens. Puisque ce sont des champions de la restauration.
Tout à fait.
Voilà,
et mettre en avant ce patrimoine architectural qui est le nôtre et qui est unique au monde, exceptionnel. C'est notre fierté, on cesse de le dire.
Oui.
On parlera de préservation dans un petit moment. L'architecture nous dit beaucoup sur les peuples. Majda, tu es d'accord avec ça?
Ah oui, complètement. C'est vraiment le témoin vivant d'une société et on peut aussi travailler sur l'humain et donc sur la société pour espérer aussi demain avoir des villes qui soient, on va dire, plus harmonieuses. C'est vraiment le reflet d'une société, et on a l'habitude avec ma mère d'avoir justement des discussions où moi j'apporte mon regard de psychologue sur cette question. Oui. pour dire combien, enfin, je trouve que le fait d'étudier le comportement humain, le fait d'étudier le besoin aussi du citoyen, et donc en l'occurrence de l'Algérien, doit être aussi faire partie des études des architectes. Mm-hmm. Puisque on construit pas pour n'importe qui, on construit pour une personne qui a une histoire, qui a une identité, qui a des besoins spécifiques. Et ça, c'est un travail qui doit se faire. On le voit aujourd'hui, le décalage entre les besoins et là où les personnes, là où les gens habitent. Il y a des transformations qui se font par la suite parce que justement...
On se rend compte qu'on est complètement passé à côté finalement.
Complètement. Mais même les individus, c'est-à-dire au-delà du collectif, même les individus qui construisent leur propre maison...
Oui, tout à fait.
Ils se posent pas la question de qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont leurs besoins, pour construire justement répondre aux besoins directement. Mmh.
Mmh. Donc c'est très important.
Si je peux me permettre...
Bien sûr, très rapidement, on va écouter une chanson.
Mejda, quand elle peint, donc ces tableaux, ce sont souvent des mises en scène. Mmh. Chose que je ne fais pas, que quand je fais un tableau, je peux peindre l'architecture dans mon style, mais je ne mets pas des personnages, ouais. Et je ne crée pas une ambiance. Donc ce qu'elle fait est très utile, parce qu'elle donne une dimension humaine.
Humaine, oui.
Et, voilà.
C'est vivant, oui.
Et même elle peut, c'est un appel aussi à la modernité, parce qu'on peut très bien être moderne tout en portant un kérakou et une tenue traditionnelle.
Ouais,
et le cadre va avec, je pense. Hein,
c'est ça.
Tu es d'accord?
Oui, complètement. je suis la première à promouvoir la tenue traditionnelle pour la vie de tous les jours et non pas pour les fêtes.
Pour les
moi,
fêtes,
je porte des selwam d'ouar et je le porte le plus souvent. Et voilà, c'est comme c'est pratique au quotidien, pourquoi pas.
On échappe au folklore.
Oui, ouais, mais en plus, il faut casser cette idée que ce qu'on a comme patrimoine, non, ce n'est pas du folklore.
Non.
C'est un mot qu'on doit
bannir
du dictionnaire, j'ai envie
très
de dire.
Très authentique.
Allez, vous restez avec nous, Majida Mounjia, après une respiration musicale. On va parler de restauration, mais on va parler aussi d'art conjugué à Majida Benchaben.
نشتاق نشوفها في النهار حرة الريام على نار خيالها كان ليا غدار حوست عليها في كل دار قالوا لي غزالة ماشي على شطوط البحار وانا صيادة بسحاري عليها سوال قالوا لي واردة مروسة وسط جمار وانا في بار العيون انت يا هي
وانا منو غير قلبي ما هناني ما هناني الريح ولا نغادر قلت ربي اللي داري بلاك مكتوبي معاها مقدر وجيات مشي وانا مبهر والخنخال في رجلها والله معبار اسيادي قولولي كيندي
vague de bonne humeur qui rafraîchit vos soirées d'été.
Merci mille fois de vous joindre à nous dans votre émission quotidienne Summer Waves avec Mounjia Abdeltif et Majda Benchaben. On a beaucoup parlé architecture. C'est quelque chose à laquelle tu as réussi à échapper, Majda ou... dis-nous tout. Petite, tu te voyais pas architecte.
Pas vraiment, mais je pense qu'elle fait partie intégrante. J'ai la chance de pas être passée par les études. Donc j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui parler d'architecture sans
avoir été à l'EPO.
Subi les 5 années de l'EPO. Mais oui, ça fait partie quand même. D'ailleurs, on le voit même à travers mes peintures.
Oui.
Le côté architectural est présent. Et je dis à chaque fois, c'est ce qui structure justement. Parce que si on voit au-delà de l'aspect esthétique, l'aspect symbolique... moi, je l'ai toujours dit, d'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion de parler de ma peinture, c'est que il fut un temps où je mettais beaucoup d'arc et de colonnes dans mes peintures.
Oui.
Et je l'ai symbolisé comme étant la structure qui permet à tout individu d'être ancré dans sa culture, dans son histoire. Alors, ça peut être une structure à l'échelle d'une société.
Mmh.
Comme ça peut être une structure à l'échelle d'une famille. Donc, les deux parents. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait cette réflexion avec moi-même. Quand on était petit, qu'il y avait des séismes, on nous disait qu'il fallait rester sous une porte.
Mmh.
Donc, il y a aussi ce côté protecteur, le fait d'être sous un arc, sous une porte, et d'avoir deux piliers. Donc, j'ai toujours, à travers ma peinture, voulu aller au-delà de l'aspect purement formel et esthétique et aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière du point de vue symbolique.
Mmh. Alors, ta maman est architecte, elle est artiste aussi, plasticienne. Est-ce que l'espace et la couleur vous a toujours réunis toutes les deux ou toutes les trois, parce que même ta sœur peint aussi, et même le matheux qui ne sait pas s'exprimer ou qui ne réussit pas à s'exprimer, mais je pense qu'il le fait avec vous. Donc, c'est quelque chose qui vous a réunis tout le temps.
Oui. l'art, le dessin, la pratique de la peinture, ça a toujours existé. C'était là, c'était mmh. présent. Mmh. Le matériel aussi était présent. Donc, il suffisait que de se donner à cette expression. Mais c'est sûr que ma mère, elle a beaucoup participé à nous initier sur le plan technique. Mmh. On n'a pas fait l'école des beaux-arts, mais on a fait l'école à la maison.
Il faut préciser que le papa est architecte aussi.
Hein. Oui, oui. Et fut passionné de photos aussi. Donc, il y a vraiment cette sensibilité et le fait d'encourager toute forme d'expression.
Et du coup, est-ce que ça t'a aidé à parce que je pense que c'est une chance d'avoir une maman comme la tienne, ça t'a aidé à mieux, j'ai envie de dire, s'investir dans les ateliers que tu fais, parce que tu travailles aussi avec des petits, des grands, je veux dire, c'est pas l'âge qui pose problème, mais c'est la manière de véhiculer les idées que tu as, et tu es quelqu'un qui même dans les ateliers, tu aimes bien travailler sur le patrimoine culturel, parce qu'il est tellement riche, le nôtre. Oui. Ça t'a aidé un peu à mieux, j'ai envie de dire, organiser, à mieux gérer ces ateliers avec les personnes qui viennent.
Oui, il y a cette part en moi qui est là, hein, c'est celle du besoin de transmettre.
Oui.
Et donc je la tiens de des parents, et j'ai toujours souhaité être dans cette posture soit d'enseignement, soit de transmission. J'ai fait des études autres, mais disons que la mission elle est là, à travers toutes les activités que je mets en avant, que je crée, les concepts que je crée, il y a toujours cette partie de la transmission. À travers mes ateliers, initialement, ça a été le côté psychologique, puis ensuite le côté du patrimoine, parce que à travers ma peinture, c'est ce que je mets en avant. Oui. Forcément, quand l'occasion m'a été donnée de créer des ateliers, ça a été autour du motif de céramique, parce que c'est quelque chose qui revenait souvent dans mes peintures. Donc, de fil en aiguille, je me retrouve effectivement avec la question de la transmission, du patrimoine, de l'architecture, malgré moi.
Mais c'est quelque chose qui te fait énormément plaisir.
Ah oui, complètement, mais ça fait partie de moi. Hein, voilà.
Alors, y a-t-il des œuvres qui vous ont unis ou opposés, mais dans lesquelles il n'y avait aucun doute sur la sensibilité artistique?
Enfin, une œuvre peut-être, mais surtout une exposition.
Une exposition.
Vous savez,
oui,
en 2006,
ouais.
On a fait, enfin moi je l'avais intitulée « Palette triangulaire mm-hmm. » et on était Mounjia, Meryem et Majda. Donc on a exposé au Théâtre des Vertures. Elle était à ses débuts.
Moi j'avais 20 ans.
Voilà, elle était à ses débuts, et c'est un concept qui m'avait vraiment, vraiment plu, parce que le public a compris une chose, c'est que nous sommes parentes, mais nous n'avons rien à voir dans... Nous avons pris des directions différentes.
Le style.
Ouais. Le style n'est pas le même.
L'univers n'est pas le même.
Et même, moi par exemple, je peins avec de la gouache, et c'est l'acrylique et l'huile, et Meryem c'est aussi les deux. Donc, on n'est pas ensemble quand on peint. Chacune est dans sa bulle, à propos de bulle. Et puis, chacun s'épanouit.
Ouais.
Mais c'est implicite. On est ensemble. C'est au
c'est
niveau
incroyable,
de,
ça.
C'est comme une circulation un peu presque mystique. Moi, je la vois comme ça. C'est qu'on est connecté. On est connecté sans parler. De toute façon, on est loin. Spatialement loin, chacune est dans un pays, donc mais on est ensemble aussi.
Si vous deviez toutes les deux, parce que vous êtes là toutes les deux, mais on aurait pu poser la question à Meryem aussi, mais si vous deviez toutes les deux peindre une œuvre à quatre mains, quel serait le thème?
Alors, on l'a déjà fait. On a déjà fait une peinture.
Ah oui, la violette, là.
Oui. Et c'était.
C'est marrant, quand même.
C'était une idée que j'avais à une époque où je voulais un peu la généraliser avec d'autres artistes aussi. Je trouvais que c'était intéressant de fusionner les styles, de fusionner les univers. En fait, j'ai pris une toile. Non, c'était une toile ou un support. Mm-hmm. J'ai fait ma partie. Donc, c'était bien sûr autour de personnages et l'architecture. Et moi, j'ai fait ma partie et elle a fait... moi, c'était le personnage et elle a fait la partie architecturale. Donc, c'était...
Ça a donné, vous savez... Enfin, tu sais, c'est un yin and yang.
Oui, j'adore. C'est... On parlait de complémentarité, ouais. C'est ça.
Oui, c'est-à-dire, ça a été... Il y a eu une magie, là. Ce qui est merveilleux dans une œuvre picturale, c'est des choses imprévisibles.
Oui.
Et tous les peintres de l'histoire ont été honnêtes et l'ont dit. Il n'y a pas de programmation rationnelle dans une œuvre. Léonard de Vinci, il a fait des centaines de versions de la Joconde. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est quelque chose en même temps intellectuel et instinctif. C'est pas évident.
Ouais, je suis d'accord.
J'estime que c'est ça le charme d'une, on va dire, une œuvre picturale, parce qu'on reste modeste, parce que on s'exprime.
Mais en fait, pour répondre à ta question, là, ça serait. C'est quelque chose d'envisageable puisque nos styles et nos univers sont différents.
Mmh. C'est ça.
Donc on peut très bien faire une œuvre à trois, à quatre, du moment que ça se chevauche pas et que ça, on distinguera facilement à quelle est la partie qui appartient à qui.
Ça aurait été un bon défi, hein, à vous imposer toutes les deux, parce qu'il y a souvent des défis dans l'émission. Aujourd'hui, il y aura un quiz pour vous deux, mais le défi, ça aurait été bien de pouvoir le faire et de partager ensuite le résultat. À quoi pourrait ressembler une conversation, Mounjia, Majda, idéalement autour d'un café ou d'un thé? Je ne sais pas si vous êtes qui est amatrice de café ou thé.
Tisane. Parce qu'on converse assez souvent.
Oui. Oui. Ça parle de quoi? De technique? Ça parle de poésie?
Philosophique.
Voilà, c'est souvent philosophique. Ouais. Parce que les questionnements.
Ça commence par une question, généralement.
Les questionnements.
Observation.
Voilà.
Observation. Oui.
Les questionnements sont. Ils sont diversifiés, mais par exemple, je vais. Quelque chose qui nous unit, c'est un outil mathématique qui s'appelle nombre d'or. Le nombre d'or, j'avais réfléchi dessus, j'ai publié dessus, et elle, dans son parcours, elle l'a rencontré. Et ça nous a unis, c'est-à-dire qu'on a échangé là-dessus. Elle l'utilise dans sa peinture et moi, je l'ai mis en valeur dans l'architecture du patrimoine. Donc ça, je trouve que c'est très, c'est bénéfique, des conversations sur des éléments comme ça. Et puis, sur certains auteurs, on a cité des auteurs qui ont écrit sur l'architecture, sur les arts, on discute.
Est-ce que vous parlez souvent aussi de préservation du patrimoine architectural? Là, je précise, selon vous deux, Majda et Mounjia, quelle serait la plus grande menace qui pèse sur le patrimoine architectural en Algérie aujourd'hui?
Alors, patrimoine, le territoire est vaste, c'est-à-dire que on a les régions en Algérie. Mmh. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus complexe quand il s'agit de villes entières. Mm-hmm. Je fais allusion au Qsar.
Par exemple, oui.
Le Qsar, il faut l'avouer, c'est pas brillant, quoi. Ils partent. On n'a pas pu les retenir. Et donc, comme là-bas, c'est le côté climatique, il est sans pitié. Oui. Ils s'en vont. Mmh. Maintenant, le nord et le centre, on est dans l'urgence. Moi, j'ai ressenti l'urgence il y a quelques années et j'ai pas eu l'impression que cette urgence a été vraiment prise en considération. Mmh. Parce que sinon, on aurait mis les moyens, de grands, grands moyens, parce que c'est une priorité. Mm-hmm. C'est une priorité. C'est notre mémoire, c'est notre histoire. Et l'enjeu,
c'est l'identité aussi.
L'enjeu est existentiel. Mm-hmm.
Comment transmettre l'amour du patrimoine aux jeunes générations qui aujourd'hui ne jurent que par les écrans? Voilà, on scrolle à longueur de journée, on est envahi par des images qui nous viennent de partout, dehors de l'Algérie, je veux dire.
Moi, je le fais à travers mes ateliers.
Tout à fait.
Alors, il y a le volet patrimoine algérien. Mm-hmm. Je modestement, avec ce que je sais à travers ce que m'a appris ma mère et sur le sujet, quand j'ai l'occasion de transmettre, je le fais à travers mes ateliers. Et surtout là, en ce moment, je fais mes ateliers à la Casbah, au Musée national de la miniature et de l'enluminure. Donc, oui, on est vraiment installé fait au Stadar et on est entouré de ce riche patrimoine. Donc, je saisis ces occasions pour informer, pour transmettre, pour planter des graines, parce que les 10-15 personnes qui viennent, ça va pas changer le monde, mais
c'est un début.
Voilà, ça participe. Mmh. Après, moi je vais plus loin, puisque je parle de des arts de l'islam à travers les motifs géométriques. Oui. Et là, à l'international, je suis en train d'œuvrer par rapport...
Tu veux dire de l'autre côté de la Méditerranée.
Exactement. Voilà. Et puis même en ligne, quand on dit en ligne, il n'y a plus de frontières, parce que je publie beaucoup. Mmh. Et là, tout le côté les arts de l'islam, qui est très peu connu, notamment par les Algériens de la diaspora, qui ont justement un souci identitaire. Lorsque je parle de tout cet apport de la civilisation de l'islam, c'est un langage qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Donc ça suscite la curiosité et il y a quelque chose que... Enfin, je sens que je peux faire quelque chose, je peux œuvrer dans ce sens. Après, chacun, comme le colibri, chacun fait sa part, chacun fait pose sa petite pierre, mm-hmm, et en espérant un changement de notre vivant, je sais pas, mais en espérant.
Nandia, oui.
Oui. Alors, à propos de...
Et après, on fait le quiz.
La jeune génération. À chaque époque, il y a une jeune génération. Mm-hmm. Moi-même, j'ai été jeune génération.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, moi, j'ai ma petite perception. Je pense qu'il faut pas... il faut s'adapter à ce qui les passionne et aussi, pourquoi pas, utiliser leurs outils et travailler sur la sensibilisation. Il faut pas leur imposer des outils... vieux et démodé. Mm-hmm. Ça sert à rien parce qu'il y a...
Il faut marcher avec leur temps.
Voilà, il y aura un phénomène de rejet. Mm-hmm. Donc ça a été ressenti toujours à chaque génération. Internet, quand il est arrivé, il a été rejeté. Et après, maintenant, on peut pas s'en passer.
Tout
ça a toujours
ça
été comme ça.
Aussi,
d'ailleurs, le célèbre Idrissa Berkane a dit ça. Il a dit, quand il y a une innovation, elle est rejetée. Ensuite, il y a une autre étape et ensuite, on peut pas s'en passer.
Ouais.
Il a décrit les trois étapes. Cette jeune génération, il ne manque pas d'intelligence.
Et
voilà. Ils ont leurs besoins, ils ont leurs rêves, comme nous les avons eus. Maintenant, c'est à nous.
De trouver les moyens qui
nous qui sommes censés savoir mieux qu'eux.
Voilà.
Il faut mettre à leur portée cette connaissance. Mm-hmm. Par exemple, il faut pas dire à un jeune de 20 ans, il faut lire 30 livres pour accéder à une connaissance. Je veux dire, non.
Mm-hmm. Je
défends la lecture, le livresque. Mais doucement, il faut essayer de trouver des astuces, il faut le respecter, ce jeune, mm-hmm, et faire que il va s'attendrir, il va se laisser faire, il va tomber dans le piège. J'ai fait ça avec mes étudiants, je l'ai appliqué la méthode, et c'est moi qui me suis adaptée à leurs besoins. Et je leur ai glissé des choses assez fondamentales. Donc, il faut jamais aussi les regarder de haut.
Non.
Et les sous-estimer. Ça, c'est la pire des choses. Parce que un jeune qui est sous-estimé, il se braque et il va rejeter. Donc, ils vont aimer ce patrimoine. Parce et je crois que ça a commencé.
Oui, bien sûr, il est exceptionnel, on ne peut que l'aimer. Allez, le quiz dans un petit instant. On va parler des, on va parler architecture, on va parler de sites importants en Algérie. Je suis sûre que vous allez le survoler toutes les deux.
Summer Waves, la vague de bonne humeur qui rafraîchit vos soirées d'été.
Encore quelques minutes à passer en votre compagnie, le temps passe très vite, surtout quand on est en bonne compagnie. Et ce soir, je suis gâtée, je suis ravie de les avoir avec moi toutes les deux.
Merci.
Allez, on finit par un petit quiz qui concerne l'architecture en Algérie, mais vous allez voir toutes les deux, c'est très facile. Ça nous permet aussi de découvrir cette richesse du patrimoine que l'on a dans notre beau et grand pays. Dans quelle ville se trouve la mosquée Sidi Boumediene, un joyau architectural évidemment? Vous allez répondre toutes les deux en chœur.
Tlemcen.
Alors, c'est facile, vous avez vu.
Bon, ça va aller en plus difficile après.
Non, je te rassure, c'est... Quelle construction romaine située près de Sétif est l'un des sites antiques les mieux conservés en Algérie?
Djemila.
Voilà. C'est un lieu exceptionnel.
Elle est merveilleuse,
Djemila. Je suis d'accord avec ça.
Le site est en pente. Oui, c'est une morphologie assez assez surprenante parce que en général Timga des plates, Tipaza aussi. Ouais. Donc c'est une merveille, Djemila.
Merveille. Mmh. Quel village classé au patrimoine mondial est réputé pour ses maisons en pisé et son urbanisme berbère? Il se situe dans la vallée du Mzab. C'est un petit village dans la vallée du Mzab.
C'est pas une des villes.
C'est dans... l'une des cinq villes, oui.
Benizgan.
Voilà.
Benizgan.
Bah, tu vois. Voilà. Je dis ça parce que Majda me disait, maman, elle va tout trouver. Moi, je suis pas très sûre. Mais
non,
voilà.
Parce qu'il m'a dit aussi, c'est village. En fait,
oui,
c'est une petite ville.
Oui, c'est les cinq, ville. Les cinq villes.
Voilà,
qui,
Pentapol. Oui.
Voilà, qui font justement la vallée du Mzab. Moi, je les connais toutes parce que j'ai eu la chance d'y aller. Ma tante vit à Ardeya. Mon frère a vécu longtemps à Ardeya.
C'est merveilleux.
Donc, je les connais. Benizgan, Bounoura, c'est exceptionnel. Il y a Mlika, il y a Al-Hatof et il y a Ardeya. Voilà, donc c'est exceptionnel.
Très belle
endroit.
Région, oui.
Alors, quel monument religieux d'Alger, construit au XVIIe siècle, est un exemple remarquable de l'architecture ottomane? Ça se trouve à Alger, au centre-ville de la capitale. C'est la mosquée
Jamajdid?
Non.
Djawa.
Exactement.
Ouais.
C'est la mosquée.
Ah oui, Jamajdid.
Ah oui, c'est ottoman, oui.
Oui. Les mosquées, c'est quelque chose qui t'a intéressé en tant qu'architecte, Mounjia, ou pas?
Moi, j'ai
tout
une préférence.
Oui.
C'est elle me fait vibrer, cette mosquée, bien que j'ai pas pu la voir à l'intérieur, mais j'ai vu les photos et tout. Djamal Kbir. C'est les Almoravides, c'est le 10e siècle. C'est un joyau. Et puis, ce qui me sidère, c'est que elle a pas besoin d'être un grand volume pour être grande. Jamal al-Kbir, c'est une grande mosquée, mais elle a pas besoin d'être grande dans la superficie et de volume.
En plus, elle a une histoire exceptionnelle.
Oui. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui témoignent, qui me disent chaque fois qu'ils font la prière là-bas, ils sont particulièrement émus. Donc, voilà, son ancienneté.
Alors, derrière la vitre, ça parle aussi, ça s'intéresse à ce qu'on dit. Et notre ami et technicien Kelimo Bogbagi estime que tu as entièrement raison. Il disait la même chose. Donc, voilà. Moi aussi, c'est une mosquée qui me parle beaucoup parce que j'ai longtemps habité dans le quartier donc de l'avenue du 1er novembre. Donc, c'est un monument qui nous a accompagné toute notre vie. Et c'est vrai que c'est une mosquée.
Elle a une cour avec une fontaine.
Oui, tout à fait.
Court, elle a des arbres.
Exactement.
Je veux dire, c'est quelque chose quand
alors,
même.
J'allais dire à l'Andalouse, mais bon.
Elle est différente de celle qui est à côté.
Oui, Jamel Al-Jadid.
Oui. Et de Quechua aussi.
De Quechua, de Al-Bichin, voilà.
Donc chacune...
Ce sont les mosquées qui ont... Oui,
chacune a sa personnalité, si on peut dire ça, oui.
Allez, dans quelle ville se trouve Khlet Bni Hamad, première capitale des Hamadites, hein?
On a eu la chance d'y aller à l'occasion d'une conférence qu'elle a
tenue. Tout à fait. Quelles caractéristiques architecturales, et là je suis sûre que c'est quelque chose que tu aimes, Mounjia, distingue les maisons traditionnelles de la Kasbah d'Alger. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Et ça, alors, c'est l'architecte qui va parler, c'est la dernière question d'ailleurs.
Il faut une heure.
Non, on va faire en 30 secondes chrono.
J'avais envie de te dire attends mercredi. Bon, non, rapidement. Oui. En fait, c'est pas les maisons, oui, c'est le site entier, mm-hmm, et c'est un tout. Oui. Donc, on ne peut pas dissocier. C'est Dar, Bloust Dar, voilà, et Stah qui regarde la mer. Et c'est la relation avec la rue et comment tout ça, c'est une symphonie, c'est tout fonctionne ensemble. Et puis chaque maison est unique, il n'y en a aucune qui... Non, elles se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Oui. C'est une gigantesque œuvre d'art, ouais, de nos ancêtres.
Tu vas en parler ce mercredi?
Ah ben oui. Ben oui, on me donne l'occasion.
Mais pas que. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont à l'écoute d'Alger Chaîne 3 là tout de suite et qui se demandent j'y vais ou j'y vais pas mercredi à Dar Abdeltef? Très rapidement.
Mais c'est difficile de faire de la pub pour moi-même, je veux dire.
Oui, il faut y aller voilà, mercredi à 17h.
Vous allez découvrir des choses exceptionnelles.
L'entrée par Dar Abdeltef, elle se fait par en bas, puisqu'il, ouais, y a des travaux du côté de l'Maqam, donc il faut remonter du côté de l'Hamma.
Moi, je suis pratique. Moi, j'espère que ça va pas être Madame Abdeltef qui va parler. J'espère qu'on aura le temps, ouais, d'échanger. Voilà. J'attends des questions, je n'attends que ça depuis toujours, des questions qui sont constructives et qu'on puisse débattre éventuellement. Je sais que l'organisatrice, elle souhaite ça. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire.
Merci à vous deux, Mounjia Abdeltef.
Merci à toi,
Chaban. Plaisir de vous avoir eu toutes les deux,
merci,
dans l'émission.
C'est réciproque.
Plein de bonnes choses à vous deux. Merci aux auditrices et aux auditeurs qui étaient au rendez-vous. Merci à Kelmo Bagui qui nous a accompagnés à la technique, à Hinjun Hia à la réalisation. Rendez-vous demain, 20h-21h, pour un nouveau Summer Waves, juste après le flash de 21h. C'est Lamia Bouchek, Lamia Mahfouf, qui prennent le relais pour Bonsoir l'Algérie. Excellent moment sur Alger Chaîne 3. Et à demain 20h. Ciao, ciao.